Lecture de la 9e conférence donnée par Rudolf Steiner le 25 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé « Manifestation du karma ». Bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. La 9e conférence est intitulée « De quelques enchaînements karmiques ». L'homme et la femme, la naissance et la mort. Comme je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, nous ne pouvons qu'esquisser en grandes lignes les lois karmiques, afin de donner quelques aperçus sur ce domaine presque infini. Rappelez-vous tout ce que nous avons dit ces derniers jours, et vous ne vous étonnerez plus à l'idée que l'être humain est véritablement poussé par certaines couches de conscience à chercher dans le monde extérieur les effets réparateurs des causes karmiques incorporées par lui-même à son organisme. Il peut réellement être attiré vers un lieu où il sera exposé à une infection qui lui offrira l'effet compensateur cherché. Il pourra même être attiré vers une catastrophe pour y chercher la réparation qu'il devait trouver dans cette vie. Or, que devient le karma si nous sommes en mesure d'empêcher cet être humain, par quelque moyen, de trouver la réparation voulue? Si nous pouvons établir des mesures d'hygiène qui rendront impossibles les maladies vers lesquelles le karma pouvait précisément le pousser? Nous avons déjà montré qu'il ne dépend pas de l'individu de se trouver dans un cas exceptionnel de ce genre. Nous avons vu comment, par exemple, des besoins de propreté réapparaissent à une époque déterminée, simplement parce que ces besoins, qui avaient dû disparaître à des époques passées, sont ramenés par les correspondances de l'évolution. Et nous avons conclu qu'une découverte quelconque, à un moment donné, est absolument soumise aux grandes lois karmiques. On comprend sans peine, par exemple, que les mesures hygiéniques modernes n'aient pas été inventées avant notre époque, parce que l'humanité avait besoin des maladies dont ces règles doivent délivrer le monde. Pour le comportement général de la vie à une époque, l'humanité est réellement soumise à des lois bien déterminées, et jusqu'à ce qu'une mesure quelconque puisse devenir utile à l'évolution humaine, la possibilité même de la trouver n'est pas donnée. Car ces lois ne dérivent pas de la vie pleinement consciente, raisonnable et logique que l'individu connaît entre la naissance et la mort, mais de l'esprit collectif de l'humanité. Il vous suffira, pour vous en convaincre, de constater comment telle découverte ou telle invention n'est faite qu'au moment où l'humanité est mûre pour la recevoir. Un coup d'œil sur l'histoire de l'évolution humaine vous en fournira maints exemples. Songez que nos ancêtres, autrement dit nos propres âmes en d'autres corps, ont vécu sur l'ancien continent atlantéen dans des formes tout à fait différentes des corps humains actuels. Ce continent fut submergé, et c'est à une certaine époque bien plus tardive que les découvertes permirent, à un moment donné, aux habitants des deux continents terrestres émergés, de communiquer entre eux. Il n'y a pas très longtemps que les peuples de l'Europe ont pu revenir de nouveau vers les régions qui s'étaient détachées de l'autre côté du continent atlantéen. En vérité, de grandes lois président à ces choses. Il ne dépend pas de la volonté ou du caprice des êtres humains qu'il se produise une découverte permettant au karma de se modifier. Un changement arrive au moment où il doit arriver. Mais abstraction faite de cela, nous pouvons influencer le karma humain en écartant certaines causes de maladie qui, sans notre intervention, eussent été recherchées par des êtres conformément à leur karma. « Influencer », entre guillemets, ici ne signifie pas « repousser », mais « diriger » dans un autre sens. Prenons un cas extrême. Supposons que, poussé par leur karma, un certain nombre d'êtres se sentent incités à rechercher les conditions qui leur apporteraient une compensation karmique. Mais ces conditions, entre-temps, ont été supprimées pour des raisons d'hygiène. On ne peut plus les rencontrer. ces êtres ne sont pas libérés pour cela des effets karmiques que leur être intérieur réclame. Ils vont être obligés d'en chercher d'autres. L'être humain n'échappe pas à son karma. Les mesures de l'hygiène moderne ne le déchargent pas de la dette qu'il aurait payée si elle n'avait pas été inventée. La réparation karmique à laquelle nous échappons d'un côté doit être remplacée par une réparation d'un autre ordre. En dirigeant les influences vers une nouvelle direction, nous ne faisons que créer la nécessité de trouver d'autres occasions et d'autres influences. Admettons que beaucoup d'épidémies, de causes collectives de maladies, soient dues simplement à ce que ceux qui ont forgé ces causes veulent se débarrasser des effets karmiques qu'ils se sont attirés. C'est le cas, par exemple, de la petite vérole, qui est l'expression organique du manque d'amour. Si nous arrivons à écarter la possibilité de cette maladie, la cause, le manque d'amour, n'en persiste pas moins, et les âmes en question doivent chercher dans cette incarnation ou la suivante d'autres moyens de compenser leur karma. De nos jours, en effet, on élimine une quantité de causes d'événements extérieurs vers lesquels les êtres humains auraient été poussés afin de s'acquitter de certaines dettes karmiques contractées dans des vies passées. En écartant ces influences, on ne fait que retirer à l'être humain la possibilité d'en subir l'effet extérieur. Sa vie physique devient plus agréable ou plus saine. Mais il est obligé de chercher ailleurs les compensations karmiques qu'il aurait demandé au processus de la maladie. Sauvé de nos jours du point de vue de la santé, il est condamné à chercher par d'autres voies la réparation karmique. Si une vie saine offre plus d'agréments physiques, l'âme reçoit donc une influence en sens opposé. Peu à peu, elle découvre en elle-même une sorte de vide, un malaise. Il lui manque quelque chose. Si cet état de choses continuait, si la vie extérieure devenait de plus en plus agréable, de plus en plus conforme à l'idéal d'une vie purement matérialiste, les âmes seraient de moins en moins poussées à progresser intérieurement. En un certain sens, elles se dessécheraient. Si l'on observe attentivement la vie, on peut déjà constater cela aujourd'hui. Il n'y a guère d'époque où il n'y ait eu autant de personnes jouissant de conditions d'existence aussi agréables que de nos jours, ayant cependant des âmes aussi vides, aussi inactives. C'est pourquoi ces personnes courent de sensation en sensation. Elles en épuisent d'abord une, puis, si leur fortune le leur permet, elles voyagent de ville en ville, à la recherche d'autres choses, ou si elles sont obligées de rester dans le même endroit, elle recourt tous les soirs à des distractions. L'âme n'en reste pas moins déserte, et voici ce qui arrive dans cette incarnation ou dans la suivante. L'âme ressent son vide intérieur. Elle ne sait plus elle-même ce qu'elle doit chercher dans ce monde pour le combler. Quand on vit dans un confort agréable, mais purement physique, extérieur, on en arrive à ne plus réfléchir qu'à des choses physiques. Et si cette disposition à ne s'occuper que du physique n'existait pas déjà depuis longtemps, la tendance aux théories matérialistes ne serait pas non plus devenue aussi forte qu'elle l'est de nos jours. C'est ainsi que la souffrance grandit dans les âmes, tandis que la vie extérieure devient plus facile. Moins que quiconque, un anthroposophe doit se plaindre de cet état de choses, car l'anthroposophie nous enseigne à tout comprendre et nous fait ainsi reconnaître en quoi se fait la compensation. Les âmes ne peuvent d'ailleurs rester vides que jusqu'à un certain degré, après quoi elles rebondissent de l'autre côté, comme mues par leur propre élasticité. Elles cherchent un contenu qui soit en harmonie avec les profondeurs qu'elles portent en elles. Elles reconnaissent alors combien elles ont besoin d'être menées vers une conception spirituelle de l'univers. Le matérialisme facilite l'existence, mais crée des difficultés dans la vie intérieure et mène finalement les êtres, du fond de leur angoisse, à rechercher des vérités spirituelles. Celles-ci, telles qu'elles se présentent aujourd'hui dans l'anthroposophie, s'adressent aux âmes qui sentent ce vide en elles et ne peuvent être satisfaites par les impressions que la vie extérieure, si agréable soit-elle, peut leur donner. Elles continueront à courir après de nouvelles impressions sensibles jusqu'à ce que l'élan opposé se développe et devienne si fort qu'il les pousse à se nourrir de vie spirituelle. C'est ainsi qu'il existe un rapport entre l'hygiène et l'éclosion à venir de la science de l'esprit. Vous pouvez déjà le constater de nos jours en une certaine mesure. Sans doute il existe des âmes qui joignent à toutes les distractions extérieures qui les attirent encore une autre, celle de l'anthroposophie. Elles y vont comme vers une nouveauté, une sensation. Dans tous les courants de l'évolution humaine, il est inévitable que les choses qui ont une signification intérieure profonde puissent également devenir une mode, exciter le goût du sensationnel. Mais les âmes véritablement mûres pour l'anthroposophie sont celles que les engouements ne peuvent pas satisfaire et qui reconnaissent que la science extérieure est incapable, malgré toutes ses explications, d'éclairer certains faits. Voilà les âmes que tout leur karma a préparées pour unir la science de l'esprit aux profondeurs les plus secrètes de leur vie intérieure. La science de l'esprit fait aussi partie du karma général de l'humanité. Ainsi, nous pouvons donner une orientation à ce karma. Mais dans la mesure où il est l'effet de causes et d'actions passées, nous ne pouvons pas en supprimer les contre-coups sur l'être. D'une façon ou d'une autre, tout ce qu'un être humain a préparé pour lui-même dans d'autres vies retombe toujours sur lui. Nous comprendrons mieux la logique avec laquelle le karma travaille dans le monde en considérant son action dans certains domaines où il n'a pas encore un arrière-fond moral, où il se manifeste dans l'univers sans toucher aux impulsions qui conduisent à des actes moraux ou immoraux. Nous allons exposer cette action karmique neutre de façon à éclairer des questions plus spéciales que nous aurons à traiter demain. Ici, la question morale ne joue aucun rôle. Des faits neutres apparaissent dans leur enchaînement karmique. Supposons une incarnation féminine. Il est indéniable que la femme, du fait même de son sexe, passe nécessairement par d'autres expériences que l'homme. Et celles-ci ne dépendent pas seulement de phénomènes intérieurs, mais en grande partie d'événements extérieurs, de situations dans lesquelles la femme se trouve placée simplement parce qu'elle est femme. Les conditions dans lesquelles elle vit réagissent à leur tour sur son état d'âme tout entier. La femme est donc poussée à exécuter certains actes qui sont entièrement liés à sa condition féminine. L'équilibre entre l'homme et la femme n'existe que dans les sphères de la coopération spirituelle. Mais plus nous pénétrons dans les soubassements de l'âme et dans les aspects extérieurs physiques, plus la différence s'accentue entre l'homme et la femme. Par certaines caractéristiques de son âme, la femme diffère de l'homme. Elle est plus portée à une activité intérieure qui déclenche des impulsions émotionnelles, et elle a plus facilement que l'homme des expériences psychiques. En revanche, l'intellectualisme et le matérialisme, qui ont une grande influence sur la vie de l'âme, sont plus familiers à l'homme. Vie psychique et émotionnelle chez la femme, disposition matérialiste et intellectuelle chez l'homme, tels sont les caractères des deux natures. De là vient aussi que la femme doit à son sexe certaines nuances intimes de sa vie intérieure. Nous avons vu que les propriétés de la vie de l'âme élaborées entre la mort et notre nouvelle naissance prédisposent l'organisation corporelle. Mais dès la vie terrestre, ce qui pénètre par l'émotion dans l'âme tend aussi à impressionner beaucoup plus intensément l'organisme. La femme, en particulier, du fait qu'elle reçoit les impressions plus psychiquement, recueille aussi dans des couches plus profondes de son âme les expériences de la vie. L'homme peut faire des expériences plus riches au point de vue scientifique, mais de par sa nature, elles ne descendent pas aussi profondément dans son âme que c'est le cas chez la femme. Pour celle-ci, le monde environnant s'imprime tout entier dans son âme. Les événements de la vie acquièrent aussi une grande tendance à agir plus fortement sur l'organisme à venir. Une vie de femme développe donc une tendance à modifier profondément le prochain organisme. D'après les expériences d'une incarnation passée, se forme l'organisme de l'incarnation suivante. Or, travailler profondément sur et dans un organisme, cela signifie produire un organisme masculin. Un organisme masculin apparaît lorsque les forces de l'âme veulent s'imprimer plus fortement, veulent se creuser, plus profondément dans la matière. Les expériences féminines d'une vie ont pour effet dans la suivante la production d'un organisme masculin. C'est pourquoi on dit en occultisme « l'homme est le karma de la femme ». En effet, l'organisme masculin d'une incarnation est le fruit des expériences d'une incarnation féminine précédente. Qu'en est-il maintenant des expériences de l'homme ? Dans l'organisme masculin, l'être intérieur s'est plus profondément enraciné dans la matière. Il s'en est plus fortement saisi que chez la femme. La femme conserve une plus grande partie de spiritualité non incorporée. Elle ne s'installe pas aussi profondément dans la matérialité. Sa corporéité reste plus souple. La femme ne se sépare pas autant de l'esprit. Ce qui caractérise la nature féminine, c'est précisément qu'elle conserve plus de spiritualité libre et tend moins par conséquent à descendre dans la matière. Elle conserve surtout un cerveau plus malléable. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les femmes aient un penchant spécial vers ce qui est nouveau, en particulier dans le domaine spirituel, parce qu'elles ont gardé leur cerveau plus libre et la résistance est moins grande. Ce n'est pas l'effet du hasard, mais d'une loi profonde si un mouvement qui, par sa nature, touche au spirituel, comprend un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Qui est homme sait quel instrument difficile à manier est souvent le cerveau masculin. Par sa raideur, il oppose des obstacles terribles quand on veut l'employer à des raisonnements plus souples. Il résiste, il faut l'éduquer par toutes sortes de moyens avant qu'il perde sa rigidité. Tout homme peut en faire personnellement l'expérience. La nature masculine est donc plus condensée, plus ramassée. Elle a été plus comprimée, rendue plus raide, plus dure. Elle est devenue plus matérielle. Or, un cerveau rigide est un instrument d'intellectualité plus que de psychisme. Car l'intellectualité est en affinité avec le plan physique. Ce que l'on doit appeler l'intellectualité masculine tient au cerveau plus rigide, plus durci de l'homme. On pourrait parler d'un certain degré de congélation du cerveau, entre guillemets. Il faut qu'il dégèle avant de pouvoir se livrer à des raisonnements plus subtils. Par là, l'homme est porté à accueillir moins d'impressions, à faire moins d'expériences se rattachant aux profondeurs de la vie de l'âme. Celles qu'il a ne descendent pas profondément. Nous en avons une preuve dans la science extérieure si superficielle qui saisit si peu le côté intérieur de l'âme. Nous voyons combien est vaste, il est vrai, le champ de sa pensée, mais combien elle reste superficielle quand il s'agit de relier des faits entre eux. Un exemple nous montrera la superficialité qui règne de nos jours. Supposez qu'un étudiant suive les cours d'un professeur de sciences naturelles qui soit un enragé darwiniste. Voici à peu près comment ce représentant de la théorie de la sélection caractérisera certains faits. D'où vient, dira-t-il, que le coq, par exemple, a de si belles couleurs bleutées dans ses plumes ? Il faut l'attribuer à l'influence de la sélection sexuelle, car le coq attire les poules par ses couleurs. Les poules choisissent parmi eux les coqs dont les plumes sont à reflets bleus. Par suite, tandis qu'une espèce se développe spécialement, les autres diminuent. C'est là un progrès, c'est ainsi qu'agit la sélection sexuelle, entre guillemets, de la race. Et l'étudiant passe maintenant à un cours voisin. Supposons qu'on étudie la physiologie des sens. Il y entend ce qui suit. On a fait des expériences qui prouvent combien les couleurs du spectre agissent de façon différente sur des êtres divers. On peut démontrer que les poules, par exemple, ne perçoivent pas les couleurs du spectre qui vont du bleu au violet, qu'elles ne perçoivent que les couleurs qui vont du vert à l'orange, au rouge et à l'ultra-rouge. Si l'étudiant a l'idée de rapprocher ces deux faits qu'on enseigne aujourd'hui, il va être poussé à prendre ces enseignements d'une façon superficielle. La théorie de la sélection est bâtie sur cette supposition que les poules voient des couleurs brillantes sur le coq et qu'elles s'en réjouissent, alors qu'en réalité, ces plumes leur paraissent noires comme la nuit, puisqu'elles ne voient pas ces couleurs. Ce n'est là qu'un exemple, mais c'est un fait certain que celui qui veut faire des études vraiment scientifiques se trouve continuellement en présence de cas semblables. L'intellectualité ne pénètre pas profondément dans les faits de la vie. Elle est obligée de rester à la surface. Quant à la mentalité matérialiste, elle ne peut absolument rien saisir de la vie de l'âme. La conséquence en est que l'être masculin, en quittant une incarnation où il vécut surtout dans son corps, emporte avec lui, entre la naissance et la mort, la tendance à descendre moins profondément dans l'organisme à son incarnation suivante. Il a moins de force pour le faire. C'est pourquoi il en résulte un penchant à construire dans la vie suivante un corps de femme. À nouveau, il est juste de dire « La femme est le karma de l'homme ». Nous constatons par des faits qui n'ont rien à voir avec le domaine moral que ce que l'être s'est préparé durant une incarnation a effectivement une action organisatrice sur son corps dans l'incarnation suivante. Et ces influences interviennent profondément, non seulement dans notre vie intérieure, mais aussi dans nos actes extérieurs. C'est pourquoi nous devons dire « L'activité extérieure d'un être dans une de ses vies sera déterminée par les expériences d'homme ou de femme qu'il a eues dans sa vie précédente. Les expériences féminines le prédisposent à se former un organisme masculin et vice-versa. » Dans des cas anormaux seulement, le même sexe se répète pendant plusieurs incarnations, mais tout au plus 7 fois. La règle est que tout organisme masculin tend à devenir féminin et vice-versa. Toute aversion est vaine dans ce domaine, car il ne s'agit pas de ce qu'on désire dans le monde physique, mais des tendances qu'on nourrit entre la mort et une nouvelle naissance, et celles-ci sont souvent déterminées par des raisons beaucoup plus sages que ne l'est par exemple la répugnance que l'on peut éprouver durant une incarnation masculine à l'idée de se réincarner comme femme dans la vie suivante. Vous avez là une loi importante qui vous montre comment une vie est déterminée par une vie antérieure et comment aussi on peut déterminer les actes de la vie suivante. Il s'agit maintenant de reconnaître un autre rapport karmique dont nous aurons également besoin pour éclairer les questions essentielles qu'il nous reste à traiter. Revenons à un temps très reculé de l'évolution, celui où les incarnations humaines commencèrent sur Terre. Ce moment se place à l'époque lémurienne. C'est alors que l'influence luciférienne s'est, pour la première fois, puissamment exercée sur l'être humain et a ensuite provoqué l'influence ahrimanienne. Essayons de nous représenter intérieurement comment l'influence luciférienne a agi sur les conditions de la vie humaine. Le fait que l'être humain ait pu recevoir à ce moment l'influence luciférienne dans son corps astral a eu pour effet de disposer celui-ci à intervenir beaucoup plus profondément dans la matière du corps physique et surtout tout autrement qu'il ne l'eût fait sans l'influence luciférienne. Cette action rendit l'être humain plus matériel. Sans elle, il n'aurait pas tellement désiré descendre dans la matière. Il serait maintenu dans des régions plus hautes de l'existence. Ainsi eut lieu une interpénétration de l'être extérieur et de l'être intérieur qui, sans l'influence luciférienne, eût été bien moins grande. Elle eut pour première conséquence de faire perdre à l'être humain la vision rétrospective des événements qui avaient précédé son incarnation. La naissance devint un acte qui liait si intensément son être intérieur à son être physique extérieur que le souvenir de ce qu'il avait vécu dans les mondes spirituels s'éteignit. Sans l'influence luciférienne, il l'eût conservé. Lucifer a ravi à l'être humain le souvenir de ses expériences spirituelles antérieures. C'est pourquoi l'être humain ne se souvient pas de ce qui se passe entre la mort et une nouvelle naissance. Il est condamné à chercher dans le monde extérieur ses expériences et les enseignements de la vie. Vous commettriez une grave erreur si vous pensiez que seules les substances grossières qu'il s'assimile, les aliments qu'il ingère, font de l'être humain ce qu'il est. Les autres contacts qu'il a avec le monde, ce qui pénètre en lui par ses sens, tout agit également sur lui. Mais à cause de sa densité matérielle, les aliments eux-mêmes agissent autrement qu'ils ne l'auraient fait sans cela. Représentez-vous que l'influence luciférienne n'ait pas eu lieu. Tout, alors depuis les aliments jusqu'aux impressions des sens, tout agirait de façon plus subtile. L'être humain mêlerait à chaque impression sensible le souvenir des expériences qu'il fait entre la mort et une nouvelle naissance. Quelque chose d'autre encore se passerait. L'être humain aurait la certitude que tous les événements de son existence projettent leurs effets dans une durée sans fin. Il se dirait « En apparence, la mort intervient, il est vrai. » Mais toute chose continue d'agir. Parce que l'être humain a été forcé de prendre en lui des éléments plus denses qu'il ne l'eût fait sans l'influence luciférienne, il crée des échanges entre sa propre nature corporelle et les éléments les plus denses du monde extérieur. Quelle est la conséquence de ces échanges? Le monde spirituel est éteint à partir de la naissance. Pour que l'être humain vive dans le monde spirituel, pour qu'il s'y réveille de nouveau, il faut qu'il rentre dans cet état où tout ce qui nous vient du dehors enlève de nouveau à l'être humain sa matière la plus dense. Il faut, pour rentrer dans la spiritualité, que nous attendions le moment où le corps matériel extérieur nous est enlevé. Cette matière qui pénètre ainsi en nous depuis la naissance détruit graduellement notre nature corporelle. Si cette matière trop grossière n'y pénétrait pas, il ne s'introduirait pas en nous l'élément qui va conduire notre nature corporelle à sa mort et qui la dissocie progressivement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus subsister. Cette matière dense due à l'action luciférienne annihile lentement le corps jusqu'à ce que, par la mort, il devienne tout à fait inutilisable. L'influence luciférienne est donc la cause karmique de la mort. Si la naissance n'avait pas ce caractère, la mort non plus ne serait pas pour l'être humain ce qu'elle est. L'être humain aborderait la mort avec une vision sûre de ce qui va lui arriver. La mort est la conséquence karmique de la naissance. La naissance et la mort sont karmiquement liées. J'ai dit qu'on ne peut pas parler de karma pour les animaux dans le même sens que pour l'être humain. Si quelqu'un disait que la naissance et la mort sont karmiquement liées chez l'animal aussi, c'est qu'il ignorerait que la naissance et la mort sont pour l'être humain tout autre chose que pour l'animal. Ce qui extérieurement paraît identique diffère intérieurement. Il s'agit dans la naissance et la mort humaine non de ce qui se passe pour le corps, mais du changement de conscience. Chez l'animal, c'est l'âme groupe, l'âme de l'espèce seule qui a conscience de vivre. Elle éprouve à la mort d'un animal à peu près ce que vous éprouvez quand vous vous faites couper les cheveux et que ceux-ci ensuite repoussent lentement. L'âme groupe d'une espèce animale ressent dans la mort d'un animal comme s'il se détachait un membre qui peu à peu aurait la faculté de repousser. C'est donc l'âme-groupe que nous pouvons comparer au « je » humain. Elle ne connaît ni naissance ni mort. Elle contemple également ce qui est avant la naissance et après la mort. Parler de naissance et de mort pour l'animal comme on en parle pour l'être humain est une absurdité, car les causes sont totalement différentes. C'est nier l'activité intérieure de l'esprit que de croire que ce qui se présente sous les mêmes apparences soit intérieurement dû aux mêmes causes. La ressemblance des phénomènes extérieurs n'est jamais le signe certain d'une identité des causes. Vous pouvez vous convaincre que l'apparence sensible extérieure n'est pas une preuve de la vie intérieure. Supposez que vous arriviez à 9 heures dans un endroit déterminé. Vous voyez là deux hommes l'un à côté de l'autre. Vous allez à vos affaires. À 3 heures, vous revenez au même endroit et vous les y retrouvez. Ce qui s'offre à votre vue est une apparence extérieure. Mais recherchez ce que ces deux hommes ont fait entre-temps et vous trouverez peut-être que l'un est resté là, tandis que l'autre a pu faire une longue course et se fatiguer. De même qu'il serait absurde de prétendre que parce que ces deux hommes sont à 3 heures à l'endroit où ils étaient à 9 heures, les mêmes choses se sont passées en eux. Il est tout aussi absurde, si l'on trouve deux cellules de même forme, de conclure à l'identité de leur fonction intérieure. Ce qu'il faut connaître, c'est l'ensemble des causes qui ont amené une cellule à occuper telle place donnée. C'est pourquoi la physiologie cellulaire moderne, qui se base sur la recherche de la structure des cellules, fait absolument fausse route. Jamais les apparences sensibles ne pourront prouver la nature intérieure d'une chose. Il faut mûrir en soi ces pensées si l'on veut comprendre qu'à celui qui les a occultement observées, la naissance et la mort apparaissent toutes différentes chez l'être humain que chez le mammifère, et d'autant plus chez l'oiseau. Ces choses ne pourront être étudiées que lorsqu'on en connaîtra l'aspect spirituel. C'est pourquoi tout le côté théorique de la science de nos jours est une hypothèse gratuite échafaudée en combinant les faits extérieurs d'après leur apparence. Nous avons examiné aujourd'hui deux domaines neutres dans le champ d'action de la loi karmique et vous verrez qu'ils formeront la base de nos considérations suivantes. Nous avons reconnu comment l'organisation féminine est la conséquence karmique d'expériences masculines et l'organisation masculine, celle d'expériences féminines. Enfin, nous avons reconnu que la mort est un effet karmique de la naissance au sein de la vie humaine. Ceci peut nous faire pénétrer plus profondément dans le karma de la vie de l'être humain.